Chapitre 29. 25 novembre 2010. Je suis au Monge, et Anna s'endort contre moi. Elle et Cornelia m'ont fait une surprise. Elles ont pris un train sans me prévenir. Cornelia dort à l'étage supérieur. Je respire l'odeur de la peau de ma fille, sa nuque est chaude, j'entends à son souffle qu'elle bascule dans le sommeil. Je dépose des baisers légers dans ses cheveux, pour ne pas la réveiller. Quand j'étais enfant, j'aimais tomber malade, parce que maman dormait avec moi. Et lorsque je n'avais plus de fièvre, elle retrouvait mon père. Alors je lui faisais croire que j'avais mal là, et puis là, afin qu'elle reste près de moi. J'ai souvent dormi avec Anna, même bien avant que son père et moi soyons séparés. Il paraît que c'est une erreur, mais l'erreur serait de ne pas profiter de sa présence. Mon enfant unique. L'année prochaine, elle entrera au lycée, et c'est chez ses copines qu'elle ira passer la nuit, plus avec moi. Anna s'est disputée avec son père quand il lui a annoncé qu'Audrey était enceinte. Elle lui a balancé qu'elle ne pensait pas qu'il pouvait être bête à ce point, qu'elle ne grandirait pas avec cet enfant, parce qu'elle avait plus l'âge d'être sa mère que sa sœur, et lui, son grand-père que son père. Pierre l'a très mal pris. Anna est partie en claquant la porte. Il a dû me maudire en se disant que décidément elle avait mon caractère. C'est toujours la faute des mères. Anna s'est précipitée dans mes bras en débarquant au Monge. J'étais dans ma chambre en train de dîner seule quand on a frappé à ma porte. J'ai cru que c'était Adèle qui venait me révéler je ne sais quoi à propos de ses nuits avec Paul ou de ses virées à Cannes. Quand j'ai vu ma fille, je n'ai pas pu retenir un cri de joie. Quelle belle surprise! Tout finira par s'arranger. Quand Anna découvrira sa petite sœur ou son petit frère, elle en tombera follement amoureuse. Ainsi va la vie. Anna m'a demandé pourquoi je séjournais à l'hôtel plutôt que dans la fameuse maison que je voulais acheter et qu'elle veut trop voir, s'il te plaît, maman. Je lui ai expliqué que c'était à cause du père de Blanche, sans donner de détails pour ne pas l'effrayer. Mais ne pas donner de détails à une adolescente qui pose 36 questions à la minute et ne lâche rien tant que vous n'êtes pas d'une précision d'orfèvre est une bataille perdue d'avance. J'ai fini par avouer les crimes de Soutkovski. C'est moi qui ai avoué à sa place. Elle a ouvert la fenêtre de la chambre, s'est penchée, a observé la rue Jean Jaurès déserte dont seules les vitrines étaient éclairées, et m'a dit « Si ça se trouve, il est en train de nous mater ». J'ai calmé sa ferveur. Non, la dernière fois que son portable a borné, il était à Paris. « Aux abesses » s'est-elle écriée. « Non », ai-je menti. « Dans une banlieue lointaine. Et puis je n'ai rien à voir avec Blanche. » Je pense que Paul exagère. Je consulte mon téléphone, pas de message d'Antoine. Le dernier remonte à plus de 2 heures. C'était une belle journée, merci de m'avoir ôté d'un doute pour la maison, bonne nuit. Me voilà réduite à l'état de midi net, j'attends des nouvelles d'un homme. J'entends des pas qui se rapprochent. Ma chambre est la dernière au bout du couloir. Les pas s'arrêtent, comme dans les films d'horreur, je devine une ombre en bas de ma porte. Ça me rappelle immédiatement Les Diaboliques de Georges Clouzot, sauf que je ne suis pas dans un film, mais à Guignon, planqué parce que ça vaut mieux. La personne reste immobile derrière la porte, il doit être 1 heure ou 2 du matin. Je pense à Cornelia à l'étage au-dessus, mais je suis incapable de prononcer un mot. À moins que ce ne soit Paul qui rentre, ou Antoine qui me pense seul. Et si c'était un fantôme, celui de Blanche? Mon cœur commence à battre anormalement. Ai-je bien verrouillé la serrure? La jeune fille de l'accueil a monté un croque-monsieur à Anna vers 22 h. Je me repasse la scène. Elle a frappé, est entrée, nous avons échangé quelques mots, j'ai cherché de la monnaie dans mon sac pour lui donner un pourboire. Mon téléphone a sonné à ce moment-là, le message d'Antoine. Comme j'étais pressée de le lire, je ne suis pas revenue fermer la porte derrière elle. Et Anna avait déjà attaqué son repas sur un coin de table. Comment est-ce possible? Comment ai-je pu oublier de la verrouiller? Quelqu'un la pousse. Jamais Paul, Cornelia ou Antoine ne pénétreraient dans ma chambre sans frapper. La lumière du couloir éclaire le sac de voyage d'Anna jeté par terre. J'aperçois la silhouette d'un homme à contre-jour qui referme derrière lui. J'entends qu'il tourne la clé de l'intérieur. Ce bruit me paralyse. Je fais semblant de dormir. mais je le vois s'approcher du lit, puis le contourner pour s'approcher de moi. Il dégage une odeur de terre mouillée après la pluie. C'est lui. Une odeur de cimetière. C'est lui. Comment est-il entré dans l'hôtel? Que veut-il? Que cherche-t-il? Pense-t-il que je sais quelque chose qu'il ignore? Je reste tétanisée comme si on m'avait fait ingérer du GHB, cette drogue qui paralyse les victimes et dont je parle dans les silences de Dieu. J'essaie de lever les bras pour toucher Anna, mais je suis incapable de bouger, incapable d'appeler à l'aide. Je suis enfermée dans un scaphandre de glace. Il se penche vers moi, respire mes cheveux et mon cou comme le ferait un animal. Je sens son souffle sur moi, son haleine. J'essaie de rassembler mes forces pour me jeter sur lui, mais mon corps ne répond plus. Suis-je en train de mourir, comme les femmes de ma famille? Suis-je la dernière sur la liste? Une goutte tombe sur ma joue, puis une deuxième, comme s'il se mettait à pleuvoir sur moi. J'entends une voiture passer dans la rue. Je distingue le rap qu'écoute le conducteur, sans doute très fort. Je mets un certain temps à réaliser que l'intrus pleure. Il reste longtemps penché au-dessus de moi. Toujours cette odeur de terre mouillée. Mes larmes de terreur se mêlent aux siennes sur mes joues. Je vais mourir à cause de son chagrin. Pourquoi? Pourquoi vais-je mourir à cause de son chagrin? La sonnerie de mon téléphone m'extirpe de ma prostration. Je parviens enfin à hurler. Pourquoi je vais mourir à cause de son chagrin? Affolée, Anna allume toutes les lampes. Nous ne sommes que toutes les deux dans la pièce. Mais la présence de l'intrus me hante. Je ne vois pas les traits tendus de ma fille qui m'observe, effarée. Je ne l'entends pas me dire « Maman, t'as fait un cauchemar ?» Je n'arrive pas à lui répondre que non, il est dans la chambre, qu'il se cache sous le lit. Je crie « Anna, cours jusqu'à la porte, vite, sauve-toi, sauve-toi !» Elle ne bouge pas. Je me précipite à la porte qui n'est plus verrouillée. Je l'ouvre, reviens saisir la main d'Anna et la tire jusqu'à la chambre de Paul en hurlant « Au secours !» Paul apparaît dans l'embrasure avant que je frappe à sa porte, son téléphone collé à l'oreille. « Agnès, je viens de t'appeler !» Les occupants des chambres voisines sortent, ahuris, certains en colère, d'autres apeurés. Un couple pense qu'il y a un incendie et tous me regardent comme si j'avais perdu la raison. « Paul, pourquoi je vais mourir à cause du chagrin de Soutkovski ? Paul, il est dans ma chambre, sous le lit !» « Va voir sous le lit, il pleure, il arrête pas de pleurer !» Je vois Paul vérifier pour me rassurer. Il ressort. « Y a personne, Agnès. »«
T'as regardé dans les placards ?»«
Il n'y a personne dans les placards, Agnès. »« Tu as dû faire un mauvais rêve. » Nous retournons tous les trois dans la chambre. Je présente mes excuses à tous les clients en pyjama, chemise de nuit ou t-shirt qui m'observent, pieds nus ou dans des charentaises. « Désolé, j'ai fait un cauchemar. » Paul retourne dans la salle de bain et dans la chambre. Les fenêtres sont fermées, les placards vides.
Et personne sous le lit.
Anna est pâle, je l'ai effrayée. « Pardon ma puce, désolée de vous avoir réveillée, » dis-je à Anna et Paul. « Je suis tellement désolée. »«
Je ne dormais pas, » me répond-il. « Je te téléphonais. »
« Ah oui, c'est vrai. Que voulais-tu me dire ?»
Blanche avait une cassette entre les mains.